Salut à tous, c'est le troisième épisode de la transmission de la formation sur les conflictualités au travail et la posture de médiation. Alors là, je vais essayer de résumer la partie qu'on a vue qui parle de l'intention, des intentions générales et des critiques et les conditions favorables et défavorables de la médiation. Donc, Jacques Faget, un auteur qui a résumé trois visions de la médiation. Selon lui, on peut la catégoriser en une vision idéaliste, une vision pragmatique et une vision critique. La vision idéaliste, eh bien, elle va recouvrir les objectifs de diffusion d'une culture de paix, la restauration de la communication entre les personnes, le travail sur l'altérité, la mise en responsabilité des acteurs dans leur propre conflictualité et donc l'amélioration des compétences des individus d'un point de vue relationnel. Et puis la promotion d'une logique coopérative et l'essor d'une démocratie directe. Dans la vision plus pragmatique de ce qu'on va mettre dans la médiation, ça va être son bénéfice en termes économique et sa rapidité, quoi. Voilà, c'est un processus qui est peu coûteux et qui est rapide au regard de ce que peut être le temps des procès plutôt des recours judiciaires, la discrétion des pourparlers, l'efficacité immédiate des décisions, l'évitement justement de l'aléa judiciaire, la compensation des vides juridiques, voilà. Et puis la préservation des relations économiques et sociales. Donc je pense que là, il s'agit plus pour cette dernière, dans un objectif de productivité. Exemple, en entreprise, on a tout intérêt à préserver les relations économiques et sociales entre les personnes. Et enfin, la vision plus critique de la médiation, on parle bien là de vision assez méta, quoi. Donc ce serait l'érosion de la légitimité de l'État, la dérégulation néolibérale des relations sociales, les menaces sur le droit des plus faibles, l'individualisation des conflits, l'occultation des rapports politiques de domination et les reproductions des inégalités de pouvoir. Voilà. Donc là, moi, je vais rappeler le cadre éthique de la médiation et ses principes fondamentaux. Donc le cadre éthique de la médiation, il est drivé par cinq grandes notions. Liberté, intégrité, équité, dignité, responsabilité. Donc liberté, c'est celle pour les parties d'y entrer et d'y sortir à tout moment du dispositif, j'entends. Intégrité, c'est créer les conditions de sécurité pour les parties. Équité, donc c'est un correctif de la loi, distinct de l'égalité, donc les solutions équitables du point de vue des parties, même si ce n'est pas du point de vue du médiateur. Voilà, la dignité, c'est la primauté de l'humain sur tout autre intérêt. Et puis la responsabilité, c'est celle des personnes à s'engager dans la compréhension des problématiques, à leur résolution, par la production de leurs propres solutions. Donc ça, c'est le cadre auquel il faut que tout le monde souscrive, autant en tant que personne qui fait la médiation que personne qui y participe. Donc les principes fondamentaux de la médiation, ils reprennent un peu le cadre éthique. Donc on va parler de consentement et liberté. Donc ça, on en a déjà parlé. Personne ne vient en médiation sans se sentir libre d'en partir. Confidentialité pour l'ensemble des participants. Personne n'accepte de parler sans savoir que ça va rester secret. Donc comment on pose ce cadre-là? Est-ce qu'il y a besoin d'un contrat écrit? Voilà. La responsabilité des personnes à produire leurs propres solutions. Le fait qu'il n'y ait pas d'engagement de procédure pendant le temps de la médiation. La courtoisie des échanges. On va accepter pendant ce temps de médiation d'être dans un rapport de respect d'écoute réciproque et de responsabilité de sa parole. Donc à cet endroit-là, le médiateur ou la médiatrice pourra aider hein, à reformuler, à remettre un cadre, à créer une pause si les échanges deviennent négatifs ou toxiques. Et puis enfin, le dernier principe, c'est celui de la confiance dans la personne qui fait la médiation ou dans le cadre qu'il ou elle pose. C'est aussi pour ça que ça va être intéressant d'avoir plusieurs personnes possibles à contacter en cas de médiation pour que ce cadre de confiance puisse être le plus bon voilà être au maxi enfin, être au maximum quoi. Voilà. Alors, il y a des conditions qui vont être particulièrement favorables pour la mise en place d'une médiation et puis d'autres qui vont être plutôt défavorables. Dans les cas les plus défavorables, qui vont être plutôt défavorables, ça va être, par exemple, quand le litige pose une question de principe de droit et que du coup, on va plutôt avoir recours du coup, à la loi à la voie juridique. Aussi, quand il y a l'existence d'un rapport de force déséquilibré, où seul un procès sera en mesure de rétablir l'équilibre. Et puis, de façon générale, quand il y a l'existence d'un rapport de déséquilibre, soit parce qu'il y a eu des actes de violence d'une partie sur l'autre, ou de dépendance économique, de manipulation psychique, voilà, donc qui fait qu'il y a une des parties qui n'est soit pas en état, soit qui n'a pas intérêt à rentrer en médiation avec son agresseur ou avec enfin, la personne dont elle est victime. Pareil, hein, en matière familiale. En cas de violence entre époux ou sur l'enfant, en cas d'emprise manifeste, les personnes victimes n'ont pas intérêt à rentrer en médiation. Et puis une autre situation qui serait assez défavorable à la médiation, c'est quand on est dans une situation qui aurait besoin d'une jurisprudence, d'une exemplarité. Donc, dans ces cas-là, il faut aussi plutôt passer par la voie juridique, judiciaire. Parce que ça permettra de créer ce cas de jurisprudence et qui pourra bénéficier à d'autres par la suite. Voilà. Par contre, les situations qui sont plutôt favorables et celles où on va plutôt dire, tiens, une médiation, ça peut être intéressante, c'est quand les parties elles sont amenées à se côtoyer dans le quotidien, qu'elles ont un futur ou des intérêts qui sont imbriqués et qu'elles ont du coup intérêt à poursuivre ou à reprendre des relations. Aussi quand il est apparent que le conflit repose sur un malentendu et que du coup des explications réciproques sont souhaitables. Et donc on est plus sur le dysfonctionnement de la relation que finalement sur le sujet. Voilà. Lorsque le conflit a une composante affective importante, ça permet de recadrer l'endroit du conflit et de sortir, enfin voilà, de bien distinguer les différentes casquettes avec lesquelles les parties se communiquent. Quand des concessions réciproques sont envisageables pour les parties, mais qu'elles n'ont pas été obtenues au préalable par une négociation, on va dire classique par exemple. Et puis voilà, des fois aussi, lorsque la solution légale par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour le coup, paraît inéquitable ou entraînerait des conséquences démesurées et que les parties n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Aussi, quand la solution légale serait assez difficilement exécutable ou pourrait au contraire attiser le conflit. Quand pour ces raisons, les parties souhaitent éviter l'aléa judiciaire et être auteurs de leur propre solution. Quand on souhaite une issue rapide au conflit et que les raisons du conflit peuvent être traitées par une médiation. Et puis quand on a le souhait de la confidentialité. Donc ça va être autant de situations où on va plutôt se dire tiens, qu'une médiation peut être bénéfique et favorable et qu'on va donc la proposer aux parties. Voilà, ou que les parties dans le conflit vont penser à en mettre une en place. Voilà. Et puis, je crois que ça, c'est la dernière partie que je voulais vous partager. C'est sur les freins et les résistances à la médiation ou au contraire leur force. Donc c'est important de les avoir en tête parce que ça va être du grain à moudre aussi pour pouvoir parler de ce qu'est la médiation en ayant conscience de ce qui la rend de ses faiblesses ou de ce qui peut apparaître comme étant ses faiblesses. Donc ça a été synthétisé par Jacques Salzer. Donc la première grande catégorie de faiblesses ou alors de forces en fonction, ça va être les résistances liées à toutes les résistances qui vont être liées à la méconnaissance de ce procédé ou à des préjugés. Donc il va y avoir là-dedans le sentiment d'échec par rapport à soi-même face au fait de devoir recourir à l'aide d'un tiers. Donc ça va être un échec pour certains, ça va être une réussite pour d'autres, de se comprendre mutuellement, d'avancer vers des solutions mutuellement acceptables. Et ça va être aussi un des freins, ça peut être le jugement personnel de faiblesse par rapport à l'autre. Il pourrait penser que je suis prêt à lâcher du lest, que je suis prête à baisser la garde, prête à perdre finalement. Pour d'autres, ça va être une force, parce que du coup, la parole de la personne médiatrice va être ajoutée à la mienne, elle va m'aider à traduire mes propos et à traduire le propos de l'autre vers moi. Un des freins, ça va être aussi le manque de discrétion. Le médiateur pourra en parler à l'extérieur, on est dans la même ville, on fréquente le même milieu. Un mot peut lui échapper. Voilà, ce manque de confiance, il peut exister même si le médiateur réaffirme son engagement de discrétion. Donc ça peut être une discussion avec les parties de qu'est-ce qui peut les rassurer à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut passer par de l'écrit? Est-ce qu'il faut passer par un contrat? Voilà, enfin, ou autre. Un des freins aussi, ça va être la surréévaluation du pouvoir de la médiatrice, ou au contraire sa sous-évaluation. Donc dans le cas de la surréévaluation, c'est la crainte que la personne nous dise quoi faire, qu'elle décide pour nous. Voilà, en ne croyant pas à la capacité de la personne à rester neutre. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont il faut pas hésiter à reparler. Et puis la sous-évaluation, pardon, ça va être plutôt, au contraire, ça va être, nous, en fait, on a déjà essayé, on a déjà discuté. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire plus que nous? Voilà, donc la croyance que l'imaginaire qui a été développé par les parties est bloqué, a été déployé à son maximum, alors qu'au contraire, il peut s'ouvrir de façon inattendue par le questionnement d'un tiers. Tel qu'il se pratique en médiation. Ça va être aussi oui, voilà, la méconnaissance de la médiation, ça c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, qu'on prise comme la solution du milieu. Donc un milieu qui essaierait de mettre tout le monde d'accord, mais qui satisferait personne ou à moitié. Donc voilà, le risque d'un mauvais compromis. Voilà, donc ça c'est. Et donc là, en fait, l'idée c'est que ce soit la personne en médiation qui est au milieu, qui fait le voyage entre l'un et l'autre. L'idée c'est que la médiation peut faire émerger des solutions impensées auparavant, en créant à la fois un cadre qui apaise les esprits et qui, par contre, voilà, maintiennent le respect des convictions de chacun et chacune. Voilà, la deuxième grande catégorie, ça va être tout ce qui est tout le scepticisme autour de la personne médiatrice. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir recours à plusieurs personnes ressources pour trouver celle qui n'éveillera le moins ces sentiments-là chez les parties. Ça va être par exemple sa possible sensibilité aux émotions, au charme, une impossible impartialité. L'influençabilité secrétée par le langage, l'autre partie parle mieux, manie mieux les mots, la médiatrice ou le médiateur sera influencé. Sa non-compétence sur le contenu du litige, une différence culturelle, elle est d'une culture, elle a d'autres valeurs, la culture, elle ne comprendra pas. La méfiance liée à l'appartenance à de tel ou tel groupe social. Elle favorisera le regard de son groupe d'appartenance. Voilà. Et puis, les troisièmes catégories, c'est des freins et résistance à la médiation. C'est aussi de savoir est-ce que ce cas relève de la médiation. Par exemple, lorsque le désir et le plaisir d'entretenir le conflit plutôt que s'accorder en médiation, lorsque les personnes n'ont pas envie d'y mettre fin, que être en conflit finalement c'est une manière de maintenir le lien. Bon, bah en fait là, une médiation ne sera pas le bon outil. Lorsque le désir c'est que l'autre soit puni, désir de revanche, de vengeance. Lorsque le désir d'une résolution veut se faire par la force ou la destruction, la médiation ne pourra pas aller dans ce sens-là, évidemment. Voilà, quand c'est la recherche de la soumission et l'éradication du problème ou de l'autre qui le pose. Quand le désir d'une décision de justice ou d'autorité extérieure, quelle qu'elle soit. Bon, bah évidemment, le refus de la probable souffrance d'une rencontre directe avec l'autre ou le sentiment de lassitude. Lorsque le sentiment que le temps de la médiation n'est pas mûr, que voilà, qu'il faut envisager d'autres voies comme la négociation directe avant d'envisager une médiation. Voilà, donc. C'est des situations où, voilà, parfois plutôt le recours à un psychologue, un juriste, un juge semble plus pertinent que la médiation. Voilà.